Mémodio, une mémoire sonore.
J'ai envie de dire merci Marie pour ce film. On va en parler plus longuement du film, du sport, de la Palestine. Je crois qu'on sera tous d'accord déjà pour dire qu'il y a de magnifiques leçons de courage dans ce film. On va prendre le temps de présenter un peu plus nos invités qui en plus travaillent. Patrick fait le service. Je voudrais commencer cette présentation par Nisrine. Nisrine Daoudi, vous êtes une footballeuse internationale marocaine, militante engagée dans le sport féminin, l'action humanitaire. Vous avez commencé votre carrière sportive au TFC chez nous à 16 ans, c'est ça, pour ensuite porter les couleurs d'un certain nombre de clubs. La liste est assez longue. L'AS Mureten, l'AS Porté, Montauban, Albi, Marsac, Humanifoot Toulouse, et vous avez représenté le Maroc dès 2012, notamment lors des qualifications pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans et pour plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Et puis, en dehors de ça, vous avez mené de nombreuses missions solidaires. Vous avez collecté plus de 400 kilos d'équipements sportifs pour le Sénégal, distribué des kits scolaires au Maroc. Vous avez fait des missions à Djibouti, pour la construction de puits au Mali, au Sénégal, des actions au Venezuela avec l'ambassade de France, vous me l'avez précisé tout à l'heure. Et puis, vous êtes fondatrice de l'association ASFD Nisrine et de Humanifoot. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ces deux associations ?
Bonsoir à tous et à tous. Je suis encore émue par rapport à ce film extraordinaire réalisé par Marie et Patrick. Je vais commencer par remercier Marie et Patrick vraiment pour cette démonstration et de nous permettre de voir aussi ce qui se passe derrière certaines frontières. Merci à vous pour ce courage. Parce que je suis du monde du sport, au-delà d'être dans le monde du sport, je suis du côté de l'humanitaire. Et c'est vrai que je suis fondatrice d'une association, et cette association qui est aujourd'hui au niveau international, voire mondial, part aussi de la pratique du sport. Quand on entend ces jeunes filles dire que le sport, c'est un élément essentiel qui véhicule des valeurs, la solidarité, le partage, etc. J'ai pris ma retraite. Donc souvent, quand j'annonce ça, que j'ai pris ma retraite, j'ai beaucoup de personnes qui rient parce que j'ai seulement 32 ans. Mais cette retraite, je l'ai prise pour pouvoir avoir des actions plus concrètes sur le terrain, de permettre de véhiculer ce que j'ai appris via le football, parce que j'ai eu la chance de voyager grâce au football et de voir ce que vous avez pu voir devant l'écran ce soir, de pouvoir aider des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir sûrement des prothèses ou d'avoir accès à des disciplines. Et voilà, je suis une ancienne internationale marocaine qui se met à disposition de l'humanité. Merci.
Donc une retraite quand même un petit peu active, effectivement. À ma droite, Patrick Chevalier, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes producteur, Patrick, producteur audiovisuel, plutôt spécialisé dans le sport féminin, puis j'aimerais dire surtout un militant de longue date pour l'égalité dans le sport et peut-être via le sport aussi. Vous avez un certain nombre d'années de bénévolat ou un nombre certain d'années de bénévolat dans le mouvement sportif en tant que dirigeant, entraîneur d'athlétisme, et vous êtes aujourd'hui producteur chez Juvaprod. Vous avez dit un mot sur la démarche particulière de Juvaprod tout à l'heure. Et puis, vous avez produit plusieurs films de Marie, tous des documentaires engagés. Sportive, le parcours médiatique des combattantes, ai-je noté parmi la liste, et on va y revenir avec Marie, sur la médiatisation du sport féminin, diffusé dans plus de 110 villes depuis 2020. Vous travaillez beaucoup sur cette idée de médiatisation du sport. Et puis, vous êtes un des dirigeant et fondateur de l'association Help Juvaprod, qui se spécialise dans l'accompagnement de jeunes dans la production audiovisuelle. Est-ce que vous auriez envie de compléter cette présentation et de nous dire un petit mot sur Help Juvaprod ?
Oui, alors Juvaprod, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une production, elle sort un peu du cadre habituel, c'est-à-dire qu'on veut absolument aborder des sujets qui ont des préoccupations, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport féminin, même s'en aperçoit que en Palestine, ça existe et c'est aussi un combat. Mais à côté de ça, on voit aussi des films sur des sujets comme les violences faites aux femmes dans le sport, sur le handicap, parce qu'on a aussi, avec Marie, fait un film sur le poids du regard, avec des jeunes qui font de la boccia, voilà, qu'on a entendu parler aux Jeux Olympiques, puisqu'on a eu pour la première fois une femme qui est devenue championne olympique de boccia, et ça avait permis de découvrir ce sport. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai un engagement d'une cinquantaine d'années maintenant, un peu plus de 50 ans, dans le bénévolat. J'ai défendu beaucoup de choses, j'ai défendu l'égalité, mais j'ai défendu aussi le respect, entre autres à travers la prévention dopage, qui est un des chevals de bataille que j'ai eu. Et puis, j'ai eu aussi donc, l'avantage, le plaisir d'essayer d'accompagner des jeunes à travers des reportages. Et là, entre autres, au mois de juillet de l'année prochaine, je vais emmener une dizaine de jeunes des quartiers de la politique de la ville, des quartiers de Bagatelle, que je vais emmener au Québec pour découvrir d'autres cultures et d'autres activités sportives.
Donc Patrick n'est pas du tout retraité et tout autant actif. Il y a également une chose à signaler, une longue période de bénévolat. Alors je voulais pas dire le nombre d'années, mais en fait il est dans le titre de l'ouvrage, donc 50 ans de bénévolat. C'est le titre de l'ouvrage, du livre que vous allez sortir à une date très symbolique, début décembre, le 5 précisément, puisque le 5 décembre est la journée internationale du bénévolat. Et donc un ouvrage qui sort et que vous pourrez retrouver sur à peu près tous les fournisseurs et toutes les librairies.
Oui, donc c'est un ouvrage qui sortira le 5 décembre, le jour symbolique du droit international du bénévolat. C'est je dirais, une biographie. C'est-à-dire que je retrace mes 50 ans, puisque mon premier poste de président, je l'ai eu en 1971. J'avais 21 ans. Et bon, je n'ai pas arrêté depuis, parce que je suis un passionné de sport, mais alors à un point pas possible. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, vivre sans le sport. Voilà, en gros, c'est ça.
Il me reste à passer à Marie Lopez Vivanco. Marie, vous êtes photographe, vous ne vous déplacez pas sans votre appareil photo, apparemment. Vous êtes aussi réalisatrice et même une réalisatrice très engagée, vous aussi, sur la visibilité du sport féminin et les enjeux de société qui sont liés. Vous êtes militante, vous consacrez une grande partie de votre travail à la représentation des femmes dans le sport. Vous avez été photographe officielle de Femix Sport. Vous avez réalisé des expos pour l'UNSS et rejoignez l'équipe du magazine Les Sportives comme réalisatrice et photographe. Parmi vos réalisations marquantes, il y a le documentaire Sportive, le parcours médiatique des combattantes que j'évoquais précédemment en présentant Patrick, puisqu'il est producteur là aussi. La traversée, sur un film que vous avez réalisé sur Nadine Concept, qui, après avoir été victime de violences conjugales, a décidé de traverser la Méditerranée en kitesurf. Voilà, et vous avez accompagné son histoire. Je suis en train de chercher la petite plaquette de programmation, puisque on se retrouve très bientôt à Frouzin, c'est ça, avec ce film, La Traversée. Donc, alors Ali, je ne sais pas si tu es encore là, peut-être que tu pourrais ramener, j'ai oublié de le faire, quelques petits flyers, c'est très précisément, mais vous retrouverez tout ça sur
le
site internet. Merci.
Le 27 novembre à 20h à la médiathèque, la
programmation, le 27 à Frouzin. Plus récemment, vous avez réalisé un autre documentaire, merci, Le poids du regard, histoire de deux para-athlètes que vous avez suivis. Et puis, devant moi, il y a un super bouquin, magnifique. Vous avez publié en 2024 chez Ramsay, pour ceux qui veulent le trouver, Championne, donc un livre de portraits de sportives olympiques et paralympiques françaises qui pèsent son poids, effectivement. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez, après nos échanges, retrouver Marie dans la pièce d'à côté, qui en a quelques exemplaires et qui peut les dédicacer à ceux qui sont intéressés. Est-ce que ce portrait rapide, trop rapide, vous convient, Marie? Est-ce que j'ai oublié des choses?
Non, mais c'est très bien. Merci.
Je ne cherchais pas le compliment spécifique. Si j'ai oublié quand même une petite chose, c'est que vous avez été photographe officiel lors des Jeux paralympiques de Paris en 2024, et puis que vous êtes également enseignante en réalisation vidéo, donc vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc. Marie, comment est née l'idée du film ? Qu'est-ce qui vous conduit vers la Palestine et puis vers ces quatre récits de femmes
Bah, quand on m'a proposé d'accompagner ce groupe de jeunes et d'aller en Palestine, bah, on a tout de suite l'appréhension, parce que ce qu'on voit à la télé, bah, c'est souvent des personnes ensanglantées, qui pleurent, qui sont dans le mal, où on entend parler de terroristes. Donc moi, ça m'a intriguée et je me suis dit c'était l'occasion. Alors ma famille n'était pas très enjouée que je parte seule. Mais bon, je suis quelqu'un qui fait très attention et j'aime l'aventure, je suis une globe-trotteuse dans l'âme et j'aime découvrir le peuple et j'aime découvrir par moi-même, voilà, parce qu'on sait très bien, moi je travaille dans les médias et je sais très bien que ce qu'on montre c'est pas forcément la réalité, pas toujours que la réalité on va dire. Et c'est, alors ce film, donc je suis allée sans visa, travail. Je suis allée avec un visa à touriste, donc j'ai pas de pied caméra, j'ai des micros qui marchent comme ils peuvent. et effectivement, voilà, il est fait avec des bouts de ficelle. Je laisse vivre aussi, parce que je trouve que c'est intéressant de commencer un peu de manière bisounours sur le regard d'adolescente qui porte sur un pays qu'on ne connaît pas. Je laisse beaucoup vivre aussi, il y a beaucoup de silence, parce que je trouve que c'est intéressant de voir la Palestine comme elle est, parce qu'on ne connaît pas les paysages, on ne connaît pas les villes, les gens, les scènes de vie. Donc c'était important pour moi de montrer que voilà, tout ce que j'ai vu, finalement, c'est un reflet de ce que j'ai vu. Et souvent on m'a reproché d'ailleurs que on m'a dit ouais c'est un peu trop feel good, on voit pas assez le mur, voilà, bon c'est des personnes qui militent à fond et j'aurais dit mais moi je suis quelqu'un, moi je suis déjà j'ai plus la télé et pourtant je travaille pour la télé parce que je trouve que c'est trop anxiogène et je trouve que la meilleure façon de laisser les gens s'identifier à un peuple et un pays, c'est de montrer en fait qu'ils sont comme eux en fait. Et donc pour moi c'était important justement de montrer un regard autre sur la Palestine, de voir aussi cette maman, on voit pas la fille, on voit la maman qui parle de sa fille qui est partie loin et on s'aperçoit que c'est compliqué, c'est que la vie en Palestine, la vie ailleurs, c'est pas tous les jours, c'est pas toujours facile de sortir du pays pour aller à des compétitions et de re-rentrer, voir les siens. Donc c'était aussi une façon de montrer voilà, l'éloignement et cette maman qui est fière finalement de sa fille qui a réussi. Et Gaza, voilà, Gaza c'était important parce que voilà, donc c'est des images qui ont été tournées entre 2019 et 2022. Donc l'école que vous voyez, elle a été détruite. Hein. Donc toutes les images de Gaza que vous voyez à la fin, elles ont été détruites. Et William vit dans un camp de réfugiés, sous une tente avec sa famille, mais elle ne perd pas espoir.
Voilà donc le choix résolu d'un ton lumineux plutôt que d'un angle dramatique classique pour parler de la Palestine, c'est ça. Hier, nous avons eu une assez longue conversation, tous les deux, et on a discuté un bon moment autour du choix que vous avez fait du titre, puisque Histoire de Palestine, quand on lit simplement le titre sur une affiche, on ne s'attend pas forcément à ce genre de contenu. Pourquoi vous avez choisi
Je voulais pas, parce que bon, championne, sportive, c'est toujours les mêmes noms. Je voulais qu'on sache qu'on parle de Palestine, parce que c'est quand même, des sportives en Palestine, c'est quand même, voilà. Je trouve que, voilà, j'ai choisi une image pour qu'on voit que c'est des sportives, qu'en tous les cas, on devine. Et comme ces quatre histoires, en fait, j'avais quatre histoires, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas comment réaliser ce film. Puis je pouvais pas y retourner parce que le 7 octobre est arrivé et que c'était compliqué d'y retourner, parce que je voulais y retourner. Et j'ai ma meilleure amie qui est dans l'édition et qui m'a dit parce que j'ai dit comment je vais faire pour réaliser, j'arrivais pas. Et elle me dit pourquoi tu fais pas comme Maupassant, il a des nouvelles, il a plusieurs histoires dans un même livre et donc tu pourrais faire la même chose avec ce film. Et donc je me suis dit Pour le nom, je voulais mettre Nouvelles de Palestine, mais bon, 7 octobre et tout ce qui se passait, la guerre, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon mot. Donc je me suis dit Histoire au pluriel de Palestine, voilà, tout simplement.
Et peut-être une question, c'est, vous n'avez pas pu revenir, effectivement, à cause du 7 octobre. Est-ce que vous avez des nouvelles des personnes qui ont servi à vos 4 portraits, notamment, je pense à la jeune fille qui était à Gaza?
Oui, alors, donc, comme je l'expliquais, elle est dans un camp de réfugiés. Elle est sous une tente avec sa famille. Alors, ils continuent à faire des activités, hein, les associations, des activités sportives avec les enfants pour essayer au max de leur changer les idées et de continuer un peu la politique sportive qu'ils ont commencé. Et puis, les autres, plutôt en Cisjordanie, il y a moins de soucis. Hein, c'est une guerre lente, c'est plutôt avec les colons. Israélien le problème, mais voilà, tout le monde va bien dans ce film, en tout cas.
Patrick, en tant que producteur, qu'est-ce qui vous a convaincu de soutenir le projet et quelle place vous accordez à ce type de cinéma documentaire aujourd'hui?
Alors, c'est un intérêt aujourd'hui de montrer des images comme quoi, par exemple, en Palestine, le sport existe. Ça nous paraît aujourd'hui important, et que le sport féminin existait. Voilà, donc il me paraissait important de montrer une autre image de la Palestine, comme on pouvait le faire éventuellement pour d'autres films.
Nisrine, qu'est-ce que ça vous inspire, ces parcours, et notamment peut-être celui de la jeune basketteuse de Gaza, mais peut-être que vous avez envie d'en pointer d'autres?
Mais j'ai découvert une fille très forte qui a su rebondir malgré la perte de sa jambe, parce qu'elle s'est découverte aussi. Il faut le savoir que malgré ce qui se passe, beaucoup de personnes se redécouvrent. Là, j'ai vu qu'elle faisait des dessins et sincèrement, j'étais vraiment surprise de la qualité de son dessin. Et au-delà de ça, c'est que malgré la situation qu'elle vit, elle a réussi à rebondir et se dire « Ben oui, j'ai une jambe en moins, mais comment faire pour rebondir et pratiquer une discipline ?» Et c'est vrai que souvent, on oublie les handisports et il faut savoir qu'ils se reconstruisent face à la situation qu'ils vivent. Là, comme elle disait, elle était partie pour jouer avec ses parents, sa famille, et elle s'est réveillée sûrement dans un bloc avec des médecins entourés. Et la première chose qu'elle a pensée, c'est « qu'est-ce que je vais faire sans jambes ?» Et sincèrement, quand on voit des personnes comme ça qui se battent pour pouvoir juste marcher et par la suite pratiquer, je voudrais dire un grand bravo à toutes les personnes qui subissent des amputations ou autres et qui arrivent à se relever, parce que c'est pas évident. J'ai mon frère qui est dans le côté médical et j'ai la chance d'avoir dans la salle des personnes qui sont dans le côté médical. Bravo à eux, parce que c'est aussi eux, comment ils font pour accompagner ces personnes-là, pour les encourager à faire du sport.
Dans les dessins que vous mentionnez, il y en a un qui est très très fort, c'est celui de la danseuse étoile, enfin, où elle est perchée sur la prothèse de jambe. C'est vrai qu'il est assez poignant comme dessin. Est-ce que dans ces portraits de jeunes filles, Nisrine, toujours, il y a des échos à votre propre parcours dans le sport féminin? Sport féminin dans les pays arabes, c'est assez minoritaire. Le film le montre, le site.
Totalement. Alors moi, je vais parler de mon parcours. J'ai joué avec des garçons. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc je suis entourée que de frères. Donc j'ai eu la chance de toucher le ballon rapidement. Je sais pas si
le caractère, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est de la chance, parce que ma maman me voyait plus du côté de la danse ou autre. Et en fait, quand elle a su que j'allais devenir footballeuse, culturellement parlant, en 98, ce n'était pas très, très connu. Les femmes dans le football, c'était catégorique, quoi. C'était garçon manqué, etc. Et du coup, ma mère, en fait, elle m'a soutenue à ce moment-là. Quand on parle des parents qui soutiennent les enfants, je trouve ça important, parce que grâce à sa vision, contre, contre tous les parents qui ont été contre à cette époque-là. Et je me souviens encore, parce que je les retrouve aujourd'hui, qui me félicitent par rapport au parcours. Pour moi, ça a été un parcours assez compliqué. Mais grâce à ce parcours-là, j'ai pu jouer en équipe nationale du Maroc. J'ai commencé en 2012. Et c'est vrai que la place des femmes n'était pas du tout... véhiculer positivement, parce que voilà, le football, ça reste un prétexte genré, on va dire, pour que les hommes soient bien vus et que les femmes soient mal vues, parce que la place de la femme, à l'époque, on disait souvent la place de la femme est à la cuisine. Et pour moi, c'est un combat encore de dire que la place de la femme n'est pas à la cuisine. La place de la femme est aussi dans les disciplines. Et pour ça, du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en relation directement les filles de l'équipe nationale marocaine, qui aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est en voie de développement et qui met la femme en lumière. C'est-à-dire, dans toutes les affiches dans le pays, on a la chance de pouvoir voir des femmes qui pratiquent du football et qui sont aujourd'hui numéro une aussi dans la discipline, par exemple, du football. Les hommes comme les femmes sont en équité aujourd'hui au Maroc, et c'est en perpétuelle évolution, parce que j'ai pu aussi jouer pour Dubaï, les Émirats, et aujourd'hui c'est encore très compliqué. Mais par exemple, pour les féminines, on parlait de la course au niveau de la voiture, et c'est vrai qu'ils font en sorte de développer tout ça. Et du coup, comment ils font? Ils utilisent toutes les personnalités. Mais par exemple, la personne qui est partie en Palestine, qui était en Palestine et qui est partie à Dubaï pour être coach, et bien aujourd'hui ils utilisent les personnalités qui ont une expérience pour pouvoir devenir coach là-bas et développer plusieurs disciplines. Donc le football est assez développé, mais on a quand même encore un retard. On le voit en France aussi. Hein. On peut parler
justement,
de la France aussi.
Vous citez au moins deux points très, très positifs. Mais je m'adresse à Marie au travers de l'expérience du travail autour du film. Et puis à Nisrine autour de son expérience sportive. Est-ce que vous pensez toutes les deux que le sport féminin, notamment dans les pays arabes ou en Palestine, est en train d'évoluer? Et qu'est-ce qui reste comme obstacle à vaincre?
Bah, déjà, si on parle de la France, déjà, ouais, parce que c'est, on va parler de la France hein, avant de regarder les autres pays, on était à 0,8% de retransmission sportive féminine en 2014 à la télé, et aujourd'hui on est à 4,8%. Voilà. Donc je pense que bon, on est très mal placé pour parler des autres pays. Mais effectivement, quand on entend les témoignages en Palestine, bah là, moi, je suis pas une experte en tous les cas au Moyen-Orient, mais en Palestine, il y en a une, elle le dit, on en voit rarement des sportives à la télé. Donc j'imagine que peut-être qu'elles sont à 0,2. Je vais pas dire de bêtises.
Mais moi, je parle de la médiatisation. C'est vraiment le domaine de Marie, mais la médiatisation, elle a un impact. Et aujourd'hui, comme on a pu le voir par rapport à l'équipe nationale en France, ça a été le choix soit de mettre une émission de télé, soit de diffuser l'équipe nationale. Donc déjà, au niveau de la France, c'est très compliqué. Alors je vous laisse imaginer, au-delà des frontières, c'est toujours le même combat. La place de la femme, on est en train de tout faire pour qu'il y ait une égalité, et j'ai la chance d'avoir une personne à côté de moi qui est Patrick, qui se bat pour avoir l'équité entre les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que c'est en perpétuelle évolution. Moi, j'ai ma vision du côté du Maroc où le roi fait en sorte qu'il y ait une équité. Je ne dis pas salariale, je dis au niveau médiatique. Mais c'est encore très bas par rapport à plusieurs autres pays.
Alors, revenons un instant en Palestine, Marie, puis Nisrine peut compléter, Patrick aussi, bien entendu. On est dans un pays en guerre. On a vu le choix délibéré d'avoir un ton plutôt lumineux que donc dramatique. Pour autant, ça n'occulte pas la réalité. Il y a des infrastructures qui sont détruites, il y a des conditions extrêmement difficiles. Donc, sans mettre l'accent spécifiquement sur la situation des femmes ou des jeunes filles, les jeunes et le sport en Palestine, on en est où?
Les associations, moi je les suis hein, sur les réseaux, elles tentent hein, de continuer à faire du sport comme elles peuvent, Donc ça va être des petites activités sportives, etc., avec des bouts de ficelle. Mais ils tentent parce que le sport, ça permet de, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, et ça permet de s'évader dans l'espace d'une heure, de faire du sport, de penser à autre chose, de rire, de partager des choses avec d'autres personnes. Et donc voilà, là le chemin, là on revient en arrière, donc il va falloir reconstruire. Et encore, bon bah là, vu la situation actuelle, on n'est pas encore arrêté sur la situation. Voilà, il va falloir tout recommencer. Mais voilà, il y a plein de fédérations. On parle de françaises parce que, mais de plein de pays qui continuent à faire venir des délégations palestiniennes en France, malgré tout, pour qu'elles puissent aussi s'entraîner, parce que là-bas, elles n'ont pas. Quoi, on parle il et elle, hein, parce que là, on parle des femmes, mais les hommes, c'est un peu pareil. Donc là, les autres pays continuent, voilà, de faire des choses.
Patrick, je crois que vous vouliez compléter, c'est ça ?
Oui, moi je vais revenir là sur mon combat pour le sport, non pas féminin, mais le sport au féminin. Ça me paraît très important dans le vocabulaire de le signaler. Pourquoi ? Parce que il faut remonter, je crois, Marie-George Buffet, qui a été la première ministre des sports à aborder le sujet des plans de féminisation, c'est-à-dire que les fédérations ouvrent un peu plus les pratiques au sport féminin. Et je vais faire juste une aparté personnelle. J'ai ma fille qui faisait de l'athlétisme, qui aujourd'hui a 50 ans, et à l'âge de 18 ans, elle a arrêté de faire du sport. Vous savez pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il y a un entraîneur qui lui a dit « Mademoiselle, les filles n'ont pas le droit de faire de la perche ». Voilà. Donc, heureusement aujourd'hui, toutes les pratiques, toutes les activités sont ouvertes aux femmes. Mais on a encore beaucoup de travail. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore des freins. Et surtout, on parle du football, mais certains clubs sont à même de supprimer une section féminine pour pouvoir financer plus la section masculine que la section féminine. Les problèmes, on a aussi sur les dirigeants. Aujourd'hui, moi, je revendique une chose, c'est la parité dans les associations sportives. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on aura une parité, on aura obligatoirement d'autres idées, d'autres façons d'aborder l'activité sportive dans le club ou quoi que ce soit. À partir du moment où on aura autant de femmes que d'hommes dans un comité, on aura cette possibilité-là d'ouverture. Voilà. Et je dirais la même chose aussi sur les entraîneurs. Aujourd'hui, on a un lacune sur les conseillers, les directeurs techniques nationaux. Pourquoi ? Ben aujourd'hui, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on n'incite pas, on n'accompagne pas, solliciter des jeunes filles à faire les stages pour être professeur de PS, mais aussi devenir entraîneur d'athlétisme, de natation, quoi que ce soit, et qui permettrait d'avoir une ouverture par rapport à ça. On avance, moi je fais ça depuis 1970, on avance. Alors de 70 à maintenant, on n'a pas beaucoup avancé, on avance encore, mais encore une fois, je dis, malheureusement, on avance comme une locomotive, alors qu'on devrait avancer comme un TGV. Et il va falloir aller un peu plus vite pour que réellement le sport féminin ait toute sa place dans le mouvement sportif.
Mémodio, une mémoire sonore.
Alors juste deux ou trois questions encore avant de proposer au public d'intervenir aussi rapidement et une question pour vous trois. Patrick a fait une petite précision sémantique, le sport au féminin. Alors je vais poser la question avec deux étages. Est-ce que d'une part, selon vous, Nisrine, Marie, il y a une démarche émancipatrice consciente chez ces jeunes sportives ? Que le sport, ça sert à l'émancipation, ça porte l'émancipation, mais est-ce que finalement il y a quelque chose une espèce de revendication là-dessus ? Et l'autre tiré, je vais dire, de la question, c'est est-ce que le sport, c'est aussi dans les pays arabes, comme ça, une sorte de soft power féminin en Palestine ou dans les pays arabes ? Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux ?
Bah, moi, je pense que pratiquer un sport, c'est vouloir faire comme les autres. Ou en tous les cas se faire du bien, comme les garçons. Quoi. On ne se pose pas vraiment la question. Et après, quand on arrive dans le truc, on s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a un levier d'émancipation. Mais pour moi, en tout cas, dans ma pratique sportive ou voilà, à la maison, bah, c'était parce que je voulais faire du sport, parce que je voyais des gens en faire. Donc je me suis pas posé de savoir. Je me suis pas posé la question de me dire pourquoi ce serait pas fait pour moi.
Alors pour ma part, je vais dire, c'est un moyen de s'émanciper, oui. Moi, après, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents fortunés, plutôt visé classe populaire. Donc, j'avais pas la chance de pouvoir découvrir d'autres disciplines. Et comme je l'ai expliqué, il y a l'aspect fraternel qui a joué dans le choix de ma pratique. Mais surtout, ça m'a forgé énormément, parce que dans la vie, en fait, comme on a pu le voir dans ce film, on vit des moments très compliqués et c'est vrai que c'est un moyen de s'évader, de pouvoir se construire et de pouvoir développer des valeurs. On a pu le voir par rapport à des étudiantes, voire élèves qui sont partis et qui ont dit le sport, ça permet d'unir, de pouvoir s'entourer, de pouvoir échanger, même si on n'a pas la même langue, on a la même pratique. Et pour moi, en fait, je l'ai vécu comme ça, la discipline. Moi, j'ai été footballeuse professionnelle, j'ai voyagé partout. On n'avait pas le même langage, mais on avait les mêmes valeurs, celles de pouvoir pratiquer, jouer, rigoler, être solidaire et à la fois compétitrice. Donc pour moi, c'est un moyen de s'émanciper, de pouvoir oublier tout ce qui se passe aux alentours. Je reviens sur la question qui était passée. C'est vrai que tout a été rasé, mais le sport, ça permet aussi aux enfants de pouvoir oublier un instant de bombardement, un instant de souffrance, la perte aussi des parents, parce que moi, je me suis émancipée par rapport à ça, parce que j'ai perdu mon père, et c'est vrai que je me suis laissée aller dans le monde du football pour éviter de souffrir, et en fait, ça m'a permis de m'évader. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire que le sport, il y a énormément de valeurs là-dedans, que ce soit le sport ou quelconque loisir, ça véhicule beaucoup de valeurs. Voilà.
Alors une question pour Patrick et après on va circuler. Vous produisez, Patrick, de nombreux documentaires sur les questions d'égalité, de résilience. Marie et Patrick, vous êtes tous les deux des professionnels du cinéma. Est-ce qu'on peut parler d'un cinéma de réparation ?
Oh, cinéma de réparation, peut-être pas, mais tout au moins un cinéma de témoin. Voilà. Moi, je serais plutôt sur le témoin, c'est-à-dire de témoigner sur des sujets, la médiatisation, la Palestine, le handicap. Voilà, c'est d'ouvrir les yeux au public sur des sujets qui sont des sujets d'actualité et qui aujourd'hui posent encore des problèmes et pour lesquels il faut essayer d'avancer.
Marie ?
Bon, moi, je suis d'accord avec le mot réparation.
C'est facile.
Mais je suis d'accord aussi avec Patrick. Mais moi, je trouve que ça, faire un film, ça fait du bien. Ça fait mal aussi, hein, parce qu'on revit des choses. Mais parler justement des sujets dont on ne voit pas à la télé, pour moi, ça répare quelque part. Donc je trouve que le mot est juste.
Est-ce que parmi vous, vous avez envie de prendre le micro, de faire part à nos trois invités, de vos réactions, de vos questions J'allais vous dire, la première question, c'est la plus dure, je m'en suis chargée, donc à vous maintenant.
Bonsoir, j'ai une juste petite question. Je voulais savoir comment vous avez sélectionné les protagonistes en fait, du film. Est-ce que vous avez fait des interviews ou avant vous avez connu l'histoire ou c'était plutôt eux qui étaient plutôt intéressés ? Merci.
Merci pour cette question. Les jeunes, je les ai découvertes. Et puis les sportives, je les avais déjà identifiées en France avant mon départ. Je m'étais un peu renseignée et je les avais contactées par les réseaux sociaux. Et donc je les ai choisies. Et après, dans nos métiers, on découvre s'ils sont bons clients ou pas. Donc, je trouve que c'est bien de laisser la découverte du personnage se faire sur place. De toute façon, il n'y avait pas trop de choix. C'était un peu compliqué à distance. Et la barrière de la langue, parfois, moi, je n'avais pas de traducteur là-bas. Il y en a qui parlaient arabe. Donc, j'étais avec mon Google Trad. Et j'ai eu une grosse facture de téléphone rentrant. Mais voilà, j'ai pas regretté de trouver ces personnages parce qu'on voit une chrétienne, on voit une personne qui issue d'un milieu favorisé, et puis voilà une personne qui a perdu sa jambe dans un bombardement. Et je trouvais que finalement c'était trois personnes qui c'était trois beaux portraits.
Bonsoir. Le film est intéressant parce que malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, il se termine quand même par une conclusion optimiste. Étant donné qu'on voit deux handicapés qui rient, qui sourient à la vie. Là, maintenant, question de sport, amener du sport en Palestine. Malheureusement, je pense que ce n'est pas la question primordiale maintenant. Ils ont besoin de soins, de nourriture et avoir un toit pour pouvoir déjà se reposer. Et à partir de là, ça, c'est une promesse qu'on peut leur faire, les aider à faire du sport et à progresser. Mais quand même, merci pour votre film.
Oui, bonsoir. Moi, c'est sur le sport au féminin en Palestine, ici ou ailleurs. Donc, sur la place des femmes, moi, je suis très vieille et je me suis toujours battue pour ça, mais je vois que ça ne va pas vite. Mais vraiment pas vite du tout, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Quand on sait qu'encore la semaine dernière, il a fallu faire une manifestation pour les violences faites aux femmes, je vous dis qu'on va vite. Hein. Dans ces pays-là, très patriarcaux, il faut dire ce qui est, je trouve qu'elles sont très courageuses, ces filles. Mais quel espoir leur reste-t-il après ? Parce que ce n'est que si ce film peut se voir, peut s'entendre, parce qu'il faut aussi écouter, que ça fera un peu de chemin. Mais courage, les filles. Hein.
C'est, comme je disais, c'est beau, les paroles, parce que c'est vrai que si on ne partage pas, on ne véhicule pas, rien ne se fera. Et c'est via toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Et je pense qu'on verra avec Marie, mais ce film, il doit être entendu et il doit être vu surtout au niveau national, voire mondial.
Alors, je me tourne vers vous et vous me faites signe si vous avez une question. Moi, j'en pose une à Patrick. Justement, quelle est la circulation du film et le rayonnement du film depuis sa sortie ? Enfin, Marie peut répondre aussi, bien sûr.
Je vais répondre. Ben déjà, j'ai fini de monter le 31 décembre 2024 à minuit. Et depuis, c'est la troisième projection. Parce que quand on le proposait, c'était « J'ai le choléra, qui en veut ?» Parce que c'était un sujet quand même très compliqué. Et maintenant que la France s'est positionnée, et que d'autres pays se positionnent et que la communauté internationale aussi, là, ils commencent à...
Sur la reconnaissance de l'État, on est
d'accord. Ouais. Là, on est en train de négocier pour avoir une projection au Sénat.
Oui, on a, je dirais, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des opportunités qui vont s'ouvrir, qu'on n'avait pas avant. J'espère qu'il fera... Ce film méritera de faire un superbe parcours. Bon, peut-être pas aussi important que celui de la médiatisation du sport féminin, parce que c'était un autre sujet. Mais il y a des opportunités aujourd'hui qui se font sur la région parisienne dans les prochaines semaines et qui va permettre vraiment de découvrir ce film. Ça a été un peu, le sujet histoire de Palestine, ça a un peu bloqué l'approche du film. Mais là, je crois qu'on va pouvoir avancer. Et ça va être mon rôle d'essayer de faire découvrir le plus possible. Voilà. Et éventuellement, de voir certaines chaînes de télé pour qu'ils le passent dans le cadre des plateformes documentaires. Voilà.
Alors, en tout cas, on lui souhaite très longue vie à ce film, madame.
Bonsoir. Moi, vous parlez de deux scènes, enfin deux moments du film qui m'ont beaucoup impressionnée. Premièrement, c'est la fête de Pâques, je crois, voilà, où vous dites que la proportion de chrétiens est très très basse et néanmoins les rues sont pleines. Bon, pour nous, effectivement, on ne peut pas imaginer ça. Donc, c'était vraiment très important. Et j'ai été surprise également d'entendre des gens en Palestine jouer de la cornemuse. Peut-être que vous pouvez m'expliquer.
Moi, j'ai découvert la cornemuse. En plus, je suis bretonne. Alors. J'étais très surprise d'entendre de la cornemuse. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est un instrument qui joue beaucoup, surtout les chrétiens, et sur leur procession de Pâques. Et en plus, c'était même pas prémédité, c'est-à-dire que je suis arrivée en plein Pâques. J'avais même pas... Cette séquence, elle devait même pas se faire à la base. Quoi, elle n'était pas... Et quand elle m'a dit, ah bah oui, là, demain, c'est Pâques, je suis pas dispo, j'ai dit, mais si, je viens. C'est quoi cette procession à Ramallah ? Mais c'est incroyable. Et j'ai dit, faut montrer ça. Et effectivement, j'ai pas regretté parce que vous voyez toutes ces jeunes filles. Il y a des femmes voilées, des femmes pas voilées. Ils portent Jésus dans les rues. Tout le monde est là, tout le monde fait la fête. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau.
Et il y a une autre scène qui, au contraire, m'a énormément émue. C'est celle où on voit cette jeune fille qui a déjà vécu un attentat, qui a perdu sa jambe, toutes les difficultés qu'elle a. C'est la voir dans cette chambre parfaitement rangée, mignonne comme tout, jolie, avec l'enthousiasme qu'elle a, et de penser que maintenant, elle est dans un camp de concentration, enfin, dans un camp de réfugiés, et que sa vie est encore plus difficile. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup émue.
Mais elle veut toujours devenir prothésiste.
Moi, une question que je me posais au tout début du film, vous partez avec les jeunes françaises que vous avez accompagnées au début. Et est-ce que vous avez constaté que certaines représentations qu'elles pouvaient avoir ou préjugés ou autre, s'étaient un peu levées en étant au contact, même si c'était un temps assez court, une huitaine de jours. Le fait d'aller se confronter à la situation sur place, est-ce que ça avait suscité des surprises, des changements, des...
Elles ont complètement oublié que c'était un pays compliqué avec la guerre. Et en plus, on voit que des filles. Tout le long, on voit que des filles. Et j'ai voulu vraiment montrer ça. Et que, en fait, parfois, elles parlent arabe et on ne comprend pas ce qui se passe. Et j'ai gardé exprès, je n'ai pas mis les traductions. Parce que c'est ce qu'elle vivait. Nous, on était ballottés, on ne connaissait pas le programme, on était ballottés d'une école à une autre, on découvrait, on écoutait, mais on ne savait pas de quoi ça parlait. Et quand elles jouent au sport, quand elles font du sport, elles parlent le même langage. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Même elles sont reparties, là, je les ai encore revues. Donc là, 5 ans après, et elles en gardent toujours un super souvenir. Quoi. C'est quelque chose qui est marqué.
Ce qui ramène un peu à l'idée de l'olympisme, ça représente, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, Misrine, sur le rôle fédérateur, on va dire, du sport.
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fédère et ça unit. Et en fait, on parle le même langage et en fait, on éparpille les mêmes valeurs dans la discipline. Peu importe la discipline, peu importe le loisir, en fait, on a le même objectif final. C'est pour le foot, marquer des buts. Et pour les autres disciplines, le basket, pareil. Donc, sincèrement, c'est fédérateur. Et en plus, ce qui m'a marqué, moi, c'est la jeune fille qui était en train de se balancer et qui se remémore tous les moments qu'elle a passés en Palestine. Et où elle dit, en fait, le sport, s'il y avait seulement le sport, ça unirait tout le monde et ça éviterait les guerres. Ouais. Et c'est sincère.
Mesdames, messieurs...
Bonsoir. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur la situation actuelle et passée. Donc, parce que je présume que pour faire ce film-là, il vous a fallu 3 millions, voire un petit peu plus d'autorisation et trucs comme ça. Est-ce que vous avez rencontré des freins, des difficultés, des obstacles, lesquels ? Ou si oui, lesquels ?
Alors, je revenais d'un tour du monde avant d'aller en Palestine des ambassades de France. Donc, je travaillais avec le Quai d'Orsay. Et quand j'ai demandé s'il fallait que je prenne des autorisations au Quai d'Orsay avant d'y aller, alors, je ne sais pas au Quai d'Orsay, mais à une personne du Quai d'Orsay, je ne veux pas faire d'incident diplomatique. Et il m'a dit, si tu prends un visa à travail, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Et on va pas accepter ta venue. Donc moi, je suis allée au culot. Je suis allée avec un visa touriste. Donc j'ai demandé aucune autorisation. C'est pour ça que ça bouge, que la caméra, il n'y a pas de pied. Je filme avec un appareil photo. En fait, tous les jours, j'allais dépasser le checkpoint parce que j'étais stationnée sur Jérusalem. Et je passais le checkpoint avec mon appareil photo toute seule, en disant que j'allais faire des photos de tourisme. Et j'ai fait le film comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de défauts, qu'il n'est pas parfait. Je saigne des oreilles quand je l'écoute, quand je le vois. Mais il a été fait sans autorisation, parce que je n'aurais pas pu montrer tout ça, en fait. Pour moi, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire.
Non, je voulais simplement dire que au-delà du sport féminin et de ce qui se passe pour les jeunes femmes, je trouve que ça donne une image de fraîcheur de la Palestine en général. C'est-à-dire que vous avez tourné effectivement en Cisjordanie, mais on sait qu'il y a les colons. Mais malgré ça, on voit donc la fête de Pâques, on voit cette jeune fille à Gaza où, pour moi, Gaza, c'est l'emprise du Hamas. Bon, apparemment, pas que. Hein. Et je trouve que ça, à la fois, c'est un film qui donne de la fraîcheur sur la Palestine et qui mérite vraiment d'être vu pour ce qu'il est, pour les combats qu'il mène aussi. Voilà.
Une réaction.
Le film, il est, pour moi, c'est un peuple qui vit malgré ce qui se passe. C'est un peuple qui vit, et c'est pas ça qu'on voit à la télé. Et c'est pour ça que c'était, moi, tout ce que j'ai vu, en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout l'image que je me faisais de ce pays. Donc il faut le montrer. Il faut le montrer avec ses imperfections, mais il faut le montrer. Je suis d'accord avec vous.
Bonsoir, à nouveau. Et pour le choix de la musique, j'ai vu que vous avez utilisé plusieurs chansons de Férus. Pourquoi ? Et voilà, si je pouvais avoir une explication.
Alors j'ai choisi effectivement que des chansons de Férus et que des chansons qui parlent de Palestine. Parce que c'était une grande militante de la cause palestinienne. Et ses chansons en particulier parlent de la Palestine. Et je trouve que finalement, elles vont trop bien avec les filles, ce qu'elles vivent, le sport, tout ça, les images de la Palestine. Et ouais, je trouvais que ça collait super bien, en fait.
Et vous avez, en fait, c'était directement sur Férus ou vous avez en fait écouté plusieurs chansons, je ne sais pas, par exemple, de certains chanteurs palestiniens où ils vous ont donné en fait des conseils par rapport, ou c'était directement elle.
Après, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, quoi. J'ai écouté et j'ai été très émue par ces chansons et je me suis dit c'est elle qu'il faut mettre. Après, il y a certaines chansons qui ne sont pas de Férus. Mais pour moi, c'était une évidence que ça soit elle.
Merci.
J'ai une question, même si je suis à côté. Mais en fait, c'est une question générale. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez été surpris sur le comportement du vivre ensemble qu'il y a en Palestine. C'est une question que je te pose, mais que je pose aussi aux personnes qui sont ici dans la salle. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on disait, Pâques, où ça réunit. Et c'est vrai qu'au niveau médiatique, on l'avait eu juste avant de commencer le film, que les médias montrent ce qu'ils veulent. Là, vraiment, moi, j'ai pris une grosse claque en voyant vraiment ce vivre ensemble où tout le monde fêtait Pâques. Et moi, je veux avoir ton émotion. Comment tu l'as vécu ?
Déjà, en tournant, moi, je suis très émotive. Il y a plus émotif que moi, tu meurs. Et j'ai plein de fois, j'ai eu des larmes derrière. Parce que c'est mon métier d'observer des séquences et d'observer, de me dire, c'est, putain, faut que je filme ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que bah, j'ai eu beaucoup de buée sur mon, sur mon appareil, sur mon viseur. Et quand je l'ai monté donc fin 2024, fin 2023, pardon, bah, j'arrêtais pas de pleurer devant le film. Et encore, j'ai pas tout montré. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai censurés parce que je me suis dit que c'était pas le propos. Comme des champs de citronniers qui ont été dévastés par les eaux usées d'Israël, que Israël rejette dans les champs de, et voilà, un mur qui se construit sur des terres, etc. Donc il y avait plein de choses très émouvantes et très dures, et je me suis dit c'était pas le propos, il fallait que je reste vraiment fallait qu'on sente hein, qu'il y ait la guerre, parce que c'est la réalité, hein, faut pas la cacher. Mais je pense que le témoignage de la fin, il est quand même assez dur, pour en rajouter une couche, et qu'il fallait un peu de légèreté au départ, et laisser vivre, et même vous laisser vous dire, mais où elle veut nous emmener? Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi, voilà. Mais il fallait se préparer à la suite qui arrivait, qui allait être plus dure.
Madame.
En ce qui concerne la Palestine et le peuple palestinien, depuis quelques années, je suis ciné-Palestine à Toulouse. Et donc, effectivement, ça correspond à ce que vous avez vu. Effectivement, c'est un peuple près l'un d'eux, comme tout. Comme, je crois que c'est simplement humain. Ils vivent comme tous les autres, avec les problèmes qu'ils ont et tout. Mais effectivement, nous, on nous fait voir à la télé et ailleurs ce qu'on veut nous montrer. En quelque sorte. Alors que quand vous voyez les films qui sont faits en Palestine, je peux vous dire que j'en ai vu où je me suis vraiment, vraiment marrée.
Moi, j'ai une anecdote sur ça, parce qu'à l'époque où je suis allée, c'était l'époque des Gilets jaunes. Et quand je suis restée dans un Airbnb, quoi, une sorte de Airbnb voilà, avec des gens vraiment charmants qui m'ont accueillie en Annapelouse et qui me dit... Ah, mais c'est la révolution en France, avec ce qu'on voit à la télé. Vous vous rendez compte? Et je me suis dit, mais en fait, c'est les médias le problème, en fait. Je dis, non, moi, tout va bien. C'est juste des mecs qui sont sur des ronds-points et parfois qui cassent certains. Mais voilà, c'est la puissance que peut avoir des médias, finalement.
Et ça ramène sur un autre point, ce que soulignait Nisrine tout à l'heure sur le foot féminin. Même en France, le foot féminin, on commence à peine à pouvoir voir un ou deux matchs de temps en temps à la télévision, mais franchement, c'est pas tous les jours, quoi. Alors qu'on est gavé quelque part de tous les matchs de tous les niveaux de compétition, etc., masculin, mais féminin, il faut vraiment qu'il y ait une Coupe du Monde ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait, ou alors être abonné peut-être à des chaînes sportives spécialisées, mais c'est pas très, très répandu. Donc effectivement, s'il y a quand même un rôle des médias, vous avez un rôle au travers du cinéma, des documentaires, le travail que fait Patrick est essentiel en tant que producteur et de donner vie, on va dire, à ces films, le travail des réalisateurs et réalisatrices, évidemment, parce que si vous n'êtes pas là, Patrick, il n'a rien à diffuser, mais les médias, la télévision, etc., fait peut-être pas tout à fait le boulot, quoi, sur ces questions-là.
Ben non, c'est sûr, parce que même quand on travaille et quand on a des sujets à proposer, on nous dit, c'est quoi, sport féminin? Ah non, on n'a pas d'argent pour le sport féminin. On n'en a pas. Et quand ils voient qu'il fonctionne, bah, ils veulent bien le diffuser à la télé, mais gratuitement, parce que ça, c'est la réalité. Et donc, sur des sujets un peu plus touchy, vous imaginez bien que c'est compliqué. Hein.
Alors, pour revenir sur le film Palestine, on a essayé de le présenter dans deux festivals. Hein. On nous a dit, oh non, ça va être difficile à passer ce sujet-là. Je ne peux pas rajouter autre chose que de dire ça. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, ça a été fait il y a deux ou trois ans, mais n'empêche que les festivals ne souhaitaient pas, parce que c'était l'histoire de Palestine.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi, je suis très implantée dans les deux communautés, dans la communauté juive aussi. Hein. J'ai même des origines, quoi, en tous les pas des origines, mais voilà, en tous les cas, mes ancêtres qui étaient juifs. Et quand j'ai sorti, déjà quand je suis allée en Palestine et que mes amis ont vu que j'étais allée en Palestine, il y en a qui m'attendaient de pied ferme à Tel Aviv. Et quand le film est sorti, alors là, j'ai perdu quelques followers et des gens qui m'envoyaient des petits smileys en train de vomir quand ils voyaient cette affiche qui finalement n'est pas... sans savoir de quoi en parler. Et en plus, ils avaient juste à voir le teaser et voir que c'était un message de vie et de paix, même dans le teaser. Et c'est pour vous montrer quoi, la virulence. Alors voilà, moi j'ai plein d'amis qui sont juifs ou israéliens et qui sont très éclairés et qui... Il y a plein de gens éclairés, hein, heureusement. Mais, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être anti quelque chose ou voilà, finalement rentrer dans sa communauté parce que voilà, on peut être des gens et intelligents et souhaiter la mort de personne.
Alors peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, et de toute façon, il n'y a rien qui nous empêche de nous attarder pour discuter, je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus, d'avoir participé à cette soirée et d'être restés. Je voudrais vous rappeler la sortie le 5 décembre, journée du bénévolat, de l'ouvrage de Patrick Chevalier, 50 ans de bénévolat. C'est un parcours intéressant. Et puis, je vous remontre, je vais être super musclé à la fin de la soirée parce qu'il est vraiment lourd. Autant vous dire, je suis très fier, j'ai descendu le carton tout à l'heure. Championne, donc, le travail de Marie autour des sportives françaises aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Donc, vous pourrez retrouver Marie dans 1 minute 30 en sortant dans la pièce à côté pour en parler avec elle ou le feuilleter ou le faire dédicacer si vous le souhaitez. Je voudrais vous remercier tous les trois, Patrick, Nisrine, Marie, pour le film, pour deux d'entre vous, et puis pour votre présence, et puis surtout pour vos engagements. On est sur les chemins de la République, conseil départemental de Haute-Garonne est assez engagé sur toutes les questions d'égalité, de discrimination, de lutte contre les discriminations. Et donc, on est ravis de vous avoir accueillis ce soir. Et puis, dans quelques temps, vous pourrez retrouver ou conseiller à d'autres sur le site de Memaudio, M-E-M-A-U-D-I-O, l'enregistrement de cette soirée et puis l'enregistrement de beaucoup d'autres soirées. Merci à vous tous.
Moi, je voulais juste vous remercier, remercier le conseil départemental de donner la parole aux Palestiniennes. Vraiment, un grand merci à vous.
Merci à tous.
Memaudio, une mémoire sonore.